Bonjour à tous. Notre invité de ce jour se nomme Alexandre Antonin. Il est directeur de Caritas Valais et habite la région sédunoise. Cette interview se compose de deux parties. Dans la deuxième partie, Alexandre évoquera les différents domaines d'activité de l'entreprise sociale qu'il dirige. En première partie, il relate un souvenir de jeunesse qui date de 1989. Il était à ce moment délégué du CICR dans la bande de Gaza. Et lors d'une intervention pour secourir une femme grièvement blessée par balle, il reçoit lui-même une balle dans la jambe. Rapatrié quelques jours plus tard en Suisse, les médecins lui annoncent qu'il ne pourra plus jamais marcher normalement et qu'il devra porter une prothèse sur sa jambe blessée. Refusant le diagnostic, il intensifie les séances de rééducation et finit par pouvoir marcher sans quasiment aucune entrave. Je lui ai donc demandé de nous raconter comment sa jambe s'était rétablie.
Alors, après avoir été opéré à le plus grand hôpital d'Israël, après j'ai été rapatrié à l'hôpital de Sion, et puis c'est là que, après, j'ai été suivi par des spécialistes ici en Valais qui ont diagnostiqué vraiment une perte totale de sensibilité depuis le genou, le pied pendé, il n'y avait vraiment aucun influx nerveux qui passait, hein, avec des électromyogrammes. Donc on m'a diagnostiqué que j'étais paralysé, puis que certainement que j'allais rester quoi, paralysé, qu'il fallait mettre une prothèse pour éviter que le pied pende. Hein. Et donc j'avais 27 ans à cette époque-là, donc c'était vraiment très très difficile. Et puis...
Vous avez refusé de porter une prothèse, vous?
Alors je me suis dit, je vais essayer de, dans ma tête, je travaillais, j'allais chez les physiothérapeutes, je me faisais amener par mes parents, 3 fois par semaine, et puis je travaillais surtout au niveau mental, comme si j'arrivais à bouger quand même ma jambe, quoi. Et puis au bout de 6 ou 7 mois, je m'en souviens très bien, un matin, j'ai pu bouger un tout petit peu un petit orteil. Puis je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Donc ça m'a donné confiance, et puis j'ai continué à travailler, à donner de l'influx nerveux, hein, et on m'a rassuré par la suite que c'est envisageable, hein, un nerf peut pousser, sauf s'il est vraiment complètement sectionné. Et c'est clair que par la suite, c'est revenu, pas complètement, mais suffisamment, vu que je ne joue pas au FC Sion. Donc, je peux tout à fait, dans le restant de ma vie, vaquer à mes activités, ça ne m'a pas dérangé. Et c'est là que je me suis rendu compte que la force de l'esprit, mais pour avoir la force de l'esprit, il ne faut pas couper l'influx en disant à la personne, c'est définitif, c'est un état. D'ailleurs, 2-3 ans après cet incident, j'avais besoin d'un certificat médical pour... la visite sanitaire pour plus faire de l'armée. Et puis, je suis retourné voir quelqu'un qui m'avait dit, 2-3 ans auparavant, j'étais revenu en pleurs d'ailleurs à la maison, c'était ma mère qui m'avait accompagné, qui m'avait dit qu'il fallait mettre une prothèse, puis je ne pouvais plus jamais rien faire, si ce n'est du ski, où là, mon pied aurait été du ski de piste, donc bloqué dans la chaussure. Par contre, le vélo, la course, le football et tout ça, je pouvais oublier. Et puis, j'ai dit à cette personne, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais dans le doute, sauf bien sûr si c'est complètement un diagnostic à 100%, je dis dans le doute, moi je trouve qu'il faut laisser une porte de sortie, c'est-à-dire une porte d'espoir à chaque personne en disant, je ne sais pas, peut-être que ça ne va pas évoluer, peut-être que oui, pour laisser l'espoir, parce qu'on sait très bien la force de l'esprit, et puis le corps et l'esprit c'est vraiment, sont bien liés chez l'être humain, puis on connaît des gens qui ont fait quelque chose parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible de le faire, donc il ne faut surtout pas casser l'espoir, quoi. Sauf si vraiment ça serait donné de faux espoirs. Mais autrement, dans le cas contraire, je pense que ça, c'est très important dans tous les domaines de la vie, pas seulement au niveau physique, on le sait, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure au niveau de Caritas, ça peut être des problèmes dans la vie que chacun peut traverser ou traverse. Et puis donc, de toujours donner l'espoir, autrement, c'est la perte de l'espoir, c'est la mort.
La suite de cette interview porte sur les différentes activités de Caritas Valais. Première question que j'ai posée à Alexandre Antonin à ce sujet. Le magasin d'habits de Sion vend beaucoup d'habits de seconde main. Mais peut-on également y acheter des habits neufs?
On reçoit régulièrement de grands magasins, mais aussi de boutiques de la place, aussi dans des stations hein, du Valais. Ils nous téléphonent régulièrement à la fin de la période d'hiver pour les habits d'hiver, à la fin de la période d'été pour les habits d'été. Et on a beaucoup aussi d'habits neufs, effectivement. Donc, pour l'autre catégorie, oui. Des habits qui sont de bonne qualité, voire de marque aussi, de seconde main, mis à part les habits neufs que l'on reçoit de magasins. Pour ces habits les personnes viennent, continuent à venir ici et trouvent des choses qu'elles ne vont pas trouver dans d'autres magasins. Donc ce sont des habits qui sont rares, si l'on veut dire, parce que ces habits, on ne les trouve plus dans une ligne d'habits actuellement, quoi. Donc le choix est celui-ci, c'est que la personne qui vient à Caritas Valley essaye un habit, cet habit de bonne qualité, si cet habit lui plaît, elle ne peut pas dire, ouais, je vais le trouver à meilleur marché ailleurs. Elle ne le trouvera plus. Donc c'est ça qui incite aussi beaucoup de personnes à venir se vêtir, pas d'habits standards, où là, quand même, c'est meilleur marché que dans les grands magasins, malgré les actions des fois de 50 ou 70%. Mais ces personnes viennent ici pour des habits de qualité qui ne sont pas forcément démodés, de loin pas, mais qu'elles ne trouveront nulle part ailleurs.
Et qu'est-ce que vous faites des habits qui sont déchirés ou tachés? Est-ce que vous les jetez ou vous les envoyez quelque part?
Alors, il y a deux catégories d'habits. Vraiment, les habits qui sont complètement, même pas déchirés, mais qui sont vraiment sales. Hein. Donc, des fois, on trouve aussi malheureusement des poubelles, hein, donc avec des habits. Hein. Et d'ailleurs, c'est une crainte que l'on a dès le 1er janvier 2018, puisqu'il y aura aussi en Valais, dans le Valais romand, la taxe poubelle. On a crainte que certaines personnes, pour éviter la taxe, mettre des ordures dans des bennes à habits. C'est ce qu'on a vécu il y a quelques années en arrière dans le Haut-Valais, où la taxe a été introduite, la taxe poubelle, et on a arrêté avec les containers que l'on avait dans la région de Viège, parce que beaucoup de gens mettaient les poubelles dans les containers d'habits. Mis à part ça, les habits, enfin les déchets que l'on fait donc brûler à l'UTO restent vraiment très marginales, la quantité. La grande majorité des habits que l'on n'utilise pas et qui ne sont pas, donc pas à même d'être détruites, on les donne à une association qui s'appelle TexAid, qui en fait après les recycle. Ils ont leur centre à Oury-Schattdorf. C'est une très très grande association qui recycle après les habits et ces habits après soit servent à faire des étoupes s'ils sont déchirés, soit alors ils continuent d'avoir une vie dans d'autres pays, donc des pays de l'Est, des pays d'Afrique notamment.
Et vous, ça vous fait quand même quelques revenus qui vous permettent de faire bénéficier après aux gens de prestations sociales, de payer vos employés.
Alors, la boutique de vêtements, effectivement, génère des bénéfices pour Caritas Valley. C'est donc une source de revenus importante pour l'association, même que quand on calcule tout, effectivement, ce n'est pas une opération qui est vraiment rentable. Hein. C'est aussi une des raisons pour laquelle beaucoup de privés ne pourraient pas le faire. Par contre, ça nous permet aussi d'occuper des personnes qui sont sans emploi. Beaucoup de personnes, on a une trentaine de personnes par jour qui sont placées dans la boutique d'habits, que ce soit pour la récolte d'habits, pour le tri de l'habit, pour la mise en rayon, l'achalandage, la vente.
Donc une trentaine sur les trois sites valaisans, ou uniquement à Sion.
Uniquement à Sion,
Très bien.
une trentaine qui sont placées par jour. Sur la trentaine, il y a peut-être une vingtaine, de 20 à 25 qui sont effectivement présents, d'autres sont malades ou bien en recherche d'emploi ou différentes autres choses. Mais donc ça permet à ces personnes de pouvoir faire comme si ils étaient dans un vrai magasin. Hein. D'ailleurs, on leur impose des contraintes. Par exemple, ils passent des commandes. On passe des commandes à l'interne. On a notre stock d'habits. Donc quelqu'un qui va en boutique, une personne passée par l'ORP parce qu'elle est au chômage, on a aussi des personnes passées par les centres médico-sociaux, des personnes à l'aide sociale, et aussi des personnes passées par l'AI, par l'assurance invalidité. Trois types d'institutions qui placent à Caritas Valley. Donc ça permet à ces personnes de faire comme si elles étaient en activité, et aussi le but final, c'est qu'elles trouvent un travail sur le premier marché du travail. Pour certaines personnes qui sont encore plus proches du premier marché du travail, on les place en stage dans des vrais magasins d'habits. Hein. Donc, par exemple, chez Benetton, chez Tajiwel, Vero Moda et autres magasins. Et donc, ça, c'est une chose, ça permet pour ces personnes-là. Et effectivement, les bénéfices de l'activité de la vente de vêtements, ça nous permet d'offrir des consultations sociales et financières gratuites. On a un mandat du canton mais le mandat du canton ne couvre pas tous les frais. Et le bénéfice récolté par la vente d'habits nous permet de continuer à accueillir l'année passée près de 900 consultations sociales et financières. Donc,
Donc ça, c'est les assistants sociaux qui reçoivent toute personne qui a besoin de conseils
Alors, tout à fait,
professionnels.
sans le faire Assion, à Brigue, on a une collaboratrice qui le fait pour le Valais. À Monté, on a un bureau non permanent, mais on descend régulièrement pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Pour celles qui peuvent se déplacer, après, on les défraie d'un bon Migros ou de quelque chose comme ça. Et les consultations sociales et financières, on se rend compte qu'on vient de plus en plus en complément des institutions publiques, notamment les centres médico-sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dette. On a un mandat à Caritas Valais depuis 12 ans maintenant, du canton du Valais. Donc on a une bonne réputation et puis une bonne publicité qui a été faite. Donc les personnes qui viennent nous voir, qui ont des dettes, c'est environ pour un montant de 45 000 à 50 000 francs de dette à la consommation. C'est donc des gros montants.
Donc en moyenne, les gens qui viennent chez vous ont 40 000 francs de dette, c'est ça, ou bien en moyenne, ou...
Uniquement pour les personnes, sur les 200-300 personnes qui viennent pour le désendettement, sur les 600 autres personnes qui viennent pour des conseils financiers ou autres, ce n'est pas le cas. Ils peuvent avoir, ils ont tous, toutes les personnes, 100% des personnes qui viennent à Caritas Valais ont des problèmes financiers, mais si on va uniquement sur le problème des dettes, ça représente des gros montants.
Il y a encore un autre pan de votre activité, c'est un programme de lutte contre la dépendance au jeu. Comment est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Effectivement, on a un mandat du canton du Valais avec Addiction Valais, une fondation Addiction Valais, anciennement la loi, la LVT. Et puis, pour ce domaine-là, qui est assez délicat, parce que souvent les gens, les joueurs le cachent, ce n'est pas spontanément que les joueurs disent qu'ils perdent de l'argent. Ça ne fait pas bonne impression pour un joueur d'être pas gagnant, hein. Mais on en découvre, soit d'une manière directe, parce que quand même certaines personnes nous l'avouent, ou d'une manière indirecte, parce qu'on voit très bien que dans le budget, quand on fait le budget, qu'il y a des mancos. Alors on ne peut pas le savoir si c'est pour un homme, des femmes, ou bien la boisson, ou autre, mais il y a quand même des indicateurs qui nous font dire que c'est des problèmes de jeu. Alors là, on peut aller plus loin, et puis on essaye, parce que c'est une addiction, hein, c'est très difficile d'essayer de faire changer les choses. On essaye aussi par exemple, on a un mandat, on va chaque mois au casino de Crans-Montana, pas pour y jouer, mais pour justement discuter avec les personnes du casino, où eux ont l'obligation, ils devraient nous transmettre les cas des gens qui spontanément se sont fait interdire le casino, ou bien qui ont été interdits par le casino. C'est d'ailleurs malheureux, mais on constate dans ce genre de casino, les gens très argentés, étrangers, ce n'est pas un problème, mais c'est des personnes, par exemple, qui travaillent dans l'hôtellerie sur place, qui ont des petits salaires. À la sortie le soir de leur boulot, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont encore boire un verre, ils vont jouer, puis s'ils perdent, ça peut être dramatique. Pas seulement pour eux, mais souvent pour les familles.
Donc là, vous apportez tout un soutien de conseils psychologiques pour essayer de les dissuader, enfin de leur faire changer un petit peu de...
Alors, notre rôle est, on fait quand même du psychologique aussi, mais sans être psychologue. Autrement, on aiguille justement vers Addiction Valais qui vont essayer comme quelqu'un qui a une addiction à l'alcool, une addiction à des drogues, hein, d'essayer de faire prendre conscience. Nous, notre rôle, c'est de faire prendre conscience par les chiffres, par son budget, en le mettant devant des réalités, en disant, mais écoutez, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas jouer ce montant-là. On connaît, on a un cas que l'on suit maintenant. Ben, cette personne-là, après, elle n'a plus assez d'argent pour donner à sa famille, à ses enfants, quoi. Donc ça arrive à des choses très, très difficiles. Mais tous les problèmes des addictions, pour les faire changer, on le voit, je pense, chacun d'entre nous, on a tous une ou deux addictions, mais c'est très difficile déjà d'essayer d'en prendre conscience, puis après d'essayer d'en changer, c'est encore difficile. Il faut déjà, premièrement, prendre conscience, puis après le vouloir. Puis après, il peut y avoir des démarches de soutien, mais C'est vraiment très, très difficile. C'est pour ça qu'on fait plutôt de la prévention aussi, en disant aux jeunes, faites attention, ce n'est pas anodin. Maintenant, il y a les jeux par Internet.
À Caritas, vous rencontrez donc souvent des gens qui sont dans des situations de détresse. Est-ce que c'est difficile pour vous, après quand vous arrivez à la maison, de fermer la porte, comme on dit, disons, de pas être trop soucieux par rapport à ça, de pas garder ça en tête?
Alors, c'est comme un peu dans tous les domaines, que ce soit social ou bien de la santé, une infirmière qui, ou quelqu'un qui, ben, qui est croque-mort ou bien dans différentes professions, l'habitude fait que chacun trouve après des subterfuges un peu individuels. Hein. On en discute entre nous. Ça, c'est une manière aussi de débriefer, de pouvoir évacuer, quoi, de demander conseil à quelqu'un d'autre. À la fin, des fois, d'un entretien, quelqu'un vient, puis on échange, quoi. Après, chacun a sa manière, hein. Mais c'est vrai que ça demande quand même d'être relativement bien dans son corps et dans son esprit pour pouvoir être déjà à l'écoute de l'autre. Par contre, ce qui nous fait plutôt souci, c'est au niveau global, quand même, on constate, comme d'autres institutions similaires à la nôtre, une péjoration de la classe moyenne inférieure, qui, quelques années auparavant, avait comme objectif l'ascension sociale. Et maintenant, le seul objectif, c'est de ne pas descendre plus bas et puis tomber vraiment dans la précarité. Alors que dans les discours du 1er août politique, dans les médias, ça veut dire tout va bien, et puis le travail, c'est très important en Suisse, faire partie de la société. Il est vrai, oui. Mais en Suisse, il faut beaucoup d'argent pour vivre. Les gens gagnent bien, on dit ça, les pays les plus riches du monde, peut-être, mais il y a beaucoup de précarité, ça coûte très cher. Et puis, donc, on se rend compte vraiment qu'il y a une péjoration, puis que, il n'y a pas forcément cette prise de conscience, ou en tout cas, c'est caché au niveau politique, ou bien des médias. On nous vante plutôt en disant, voilà, le rapport Bac-Basel va parler de 1,8% de taux de croissance, alors que nous, on a plutôt la vision d'une péjoration forte. On parle encore pas du microcosme valaisan où la construction, c'est un domaine important. Et puis, il y a beaucoup trop qui a été construit, encore au-delà d'Alex Weber ou de la loi sur l'aménagement du territoire, mais uniquement déjà l'offre et la demande. Donc, automatiquement, ce secteur qui est important, avec beaucoup de sous-traitants, ça va diminuer. Beaucoup de gens vont se retrouver quand même en grande difficulté. Et puis, l'hôtellerie aussi, hein, on voit très bien que le Francfort fait que ça devient de plus en plus difficile, que ce soit pour les remontées mécaniques ou l'été. Et puis le domaine agricole en Valais, ça n'a jamais été très porteur. On ne parle même pas des problèmes de gel qu'il y a eu cette année en 2017. Mais donc le microcosme valaisan ne dépend pas d'Alonza ou bien de Syngenta à monter. Il y a tout un tissu qui est quand même dépendant de ces trois branches principales, la construction, tourisme ou bien l'agriculture.
On va finir peut-être sur une note positive. Est-ce que vous avez en tête le souvenir d'une personne qui est venue chez vous à Caritas et qui, entre autres, grâce à vos services, peut-être certainement aussi grâce à elle-même, a pu vraiment remonter la pente, a pu retrouver une situation de vie très positive?
Alors, on en a heureusement régulièrement des situations comme ça. Hein. Donc, tant les personnes placées par le chômage, l'aide sociale ou l'AI, donc qui viennent ici puis qui ont retrouvé un rythme déjà, hein, c'est-à-dire de se lever le matin, d'oser parler avec d'autres, de travailler en groupe, d'avoir accès à des clients, des vrais clients d'extérieur, des personnes qui étaient très renfermées, peu sûres d'elles, et puis tout d'un coup qui sont retrouvées beaucoup plus sûres d'elles-mêmes et éventuellement qui ont pu trouver du travail. Donc ça, ce sont des expériences qu'on vit assez fréquemment quand même, hein, heureusement, effectivement. Donc c'est très motivant. Au niveau des consultations sociales, oui, il y a des personnes qui ont eu des parcours de vie qui ne dépendaient pas d'elles, pas d'elles-mêmes. J'ai le cas d'une dame qui avait perdu ses deux parents subitement, hein, dans un accident, qui a fait contracter des dettes, et après on a pu l'aider parce qu'elle avait traversé un contre-coup, un passage très difficile dans sa vie et qui a pu rebondir maintenant dans sa vie. Non, non, on a régulièrement de cas. On n'est pas lourde, on ne peut pas faire plus que ce que l'on peut faire, mais des fois on se rend compte que d'accompagner et puis de rassurer, et puis de valoriser les personnes, de montrer qu'elles sont capables d'eux, c'est déjà énorme. Parce que sans ce moteur, au départ, les personnes, eh bien, elles restent dans l'état où elles sont, et puis elles végètent, ou alors elles peuvent vraiment décliner. Donc ça, on se rend compte que ça a vraiment un rôle, quoi.
Il me reste à remercier Alexandre Antonin pour cette interview qui a été réalisée durant l'été 2017. J'adresse enfin mes meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Salutations à toutes et à tous.